RFI.
Muy buenos días, mi nombre es Susan Saavedra.
C'est pas du vent.
Buenos días, mi nombre es Hernán Castrillón.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Buenos días para todos. De antemano, muchas gracias por su participación.
Si vous nous rejoignez, nous parlons de la lutte contre le braconnage en Afrique aujourd'hui, un fléau qui pèse désormais plus de 14 milliards de dollars selon Interpol. Il est entretenu par la demande asiatique et comme si cela ne suffisait pas, la chasse aux trophées continue, elle aussi, à faire recette. La preuve avec cette affaire du lion Cécile qui a défrayé la chronique, rappelez-vous, c'était cet été. Ce lion a été tué début juillet au Zimbabwe par Walter Palmer, un dentiste américain dont la photo a fait le tour des réseaux sociaux. Bertrand Chardonnet, je rappelle que vous êtes vétérinaire et consultant indépendant depuis 30 ans sur la gestion des aires protégées en Afrique. Alors le Zimbabwe a demandé l'extradition de Walter Palmer pour le juger. Où en est cette affaire ?
Bon, sur le dossier d'extradition, je crois qu'il n'y a pas une très grande transparence sur le sujet. Bon, cela dit, tout le secteur de la chasse n'est pas caractérisé par sa grande transparence. Bon, je crois qu'on a été quand même surpris d'apprendre la semaine dernière que le guide de chasse, donc le professionnel qui a amené ce dentiste américain chassé, a à nouveau été arrêté pour avoir enfreint la loi sur les animaux sauvages. Donc c'est quand même assez révélateur de l'état d'esprit de ces gens-là. C'est pas une anecdote qui s'est passée. Le lion n'a pas été tué par hasard et donc c'est quand même très révélateur du système.
D'autant plus que vous me disiez que, en fait, cette association de chasse américaine avait des appuis en haut lieu. Donc Walter Palmer peut dormir tranquille.
Oui, on sait que le Safari Club International est une ONG, si on veut, une association de chasseurs dont les présidents d'honneur en comptent, en particulier les deux anciens présidents des États-Unis, Bush, George Bush et George W. Bush. Donc c'est quand même des choses qui sont à un niveau très élevé.
Alors comment s'explique cette histoire? Puisque ce lion Cécile, c'était soi-disant, c'est pas vraiment, mais le plus vieux lion du Zimbabwe, normalement il aurait dû être protégé.
Mais non seulement il aurait dû être protégé, en plus il portait un collier puisqu'il était suivi par l'université d'Oxford, mais surtout il a été tué dans le parc où ils l'ont fait sortir du parc pour le tuer. Donc ce qui est révélateur en fait de plusieurs choses. La première, c'est que le nombre de lions a considérablement diminué et les chasseurs n'en trouvent plus dans les zones de chasse, donc ils sont obligés de les attirer et à plusieurs moyens, les appâts, les appôts avec les sons, etc. Hein, pour les faire venir. Et donc il n'y a plus de lions dans les zones de chasse et également les zones de chasse ont disparu. Hein, donc on a peu de données sur le Zimbabwe, mais en Zambie on a des données très précises qui ont été fait par les universités américaines sur des images satellites de Google Earth, et on a vu que plus de 40% de la totalité des zones de chasse avaient déjà disparu, c'était des champs de maïs. Donc là, effectivement, si c'est des champs de maïs, eh bien, on n'a pas de lions, on n'a pas les proies qui pourraient être utiles aux lions, et donc il n'y a pas de lions. Mais la chasse est toujours ouverte, les quotas sont toujours là.
Donc du coup, le plus simple, c'est d'aller chasser aux abords des parcs.
C'est d'aller chasser dans le parc où les lions sont protégés, et où ils sont disponibles. Il faut savoir que la majorité des aires protégées en Afrique ont été conçues à l'époque où la grande chasse était très largement pratiquée, ce qui n'est plus tellement le cas aujourd'hui. Et ça a été conçu comme des réserves de chasse, c'est-à-dire que à ce moment-là, il n'y avait pas de tourisme de vision, et donc on chassait partout, sauf à un endroit. Et cet endroit était censé produire de la faune pour repeupler les zones qui avaient été chassées. Et par exemple, vous avez des zones où vous avez une petite rivière de 2 mètres de large. On chasse d'un côté et on chasse pas de l'autre. Donc l'animal 5 fois par jour, quand il traverse la rivière, eh ben une fois il est protégé, une fois il l'est pas. Toutes les heures. Donc ça, c'est pas de la protection. Et aujourd'hui, je crois que quand on regarde une carte de la population africaine, on parlait de la démographie un peu avant, eh ben il y a plus d'espace vide. Tout est pris. Et donc, on a vraiment un grand besoin de changer ce qu'on appelle la configuration des aires protégées. La configuration, c'est quoi? C'est leur statut de protection et c'est leurs limites. Hein, les limites, normalement, c'est pas la zone de concentration, le point d'eau en Afrique. Eh bien, c'est exactement comme les villages, c'est le centre de la vie. Ça peut pas être une limite.
Et le fond du problème, c'est qu'évidemment, la chasse, ça rapporte de l'argent, beaucoup d'argent.
Oui, c'est ce que disent les tenants de la chasse qui, pendant des années, ont fait ces phrases et qui ont convaincu beaucoup de gens. Depuis quelques années, il y a eu un certain nombre d'études qui ont mis des chiffres derrière ces phrases.
Enfin, c'est-à-dire que ça rapporte de l'argent à ceux qui organisent les chasses, mais oui, pas vraiment aux populations locales.
Voilà. Le principal pays de grande chasse aujourd'hui, c'est la Tanzanie, en Afrique, qui a consacré environ 23% de sa surface nationale à la grande chasse touristique. Donc 23%, bon, vous voyez, c'est comme si on consacrait pour la France 23 départements, on a à peu près 100 départements, 23 départements uniquement pour que des chasseurs étrangers puissent venir chasser. Eh bien, ces 23% rapporte exactement 2% du chiffre d'affaires du tourisme de vision. Hein, c'est-à-dire qu'on est sur 30 à 40 millions de dollars pour la chasse et on est à 1,5 milliard $ pour le tourisme de vision.
Donc un animal vivant rapporte plus qu'un animal mort.
Voilà, environ 50 fois plus. Hein. Et aujourd'hui, on n'est plus comme il y a 50 ans. Le bon animal, c'est l'animal vivant, c'est pas l'animal mort.
Donc vous dites que finalement, la chasse aux braconniers, c'est bien, mais quelque part, c'est la partie un peu émergée de l'iceberg. Le fond du problème, c'est comment conserver les animaux vivants dans leur écosystème.
Voilà, donc toute la stratégie, c'est savoir quels sont les problèmes qui se posent à une aire protégée. Et les problèmes viennent évidemment de la périphérie, c'est l'homme. Hein. Le problème de l'homme est l'homme. Ça, c'est bien. C'est d'ailleurs pas un hasard si l'UICN a classé l'homme dans les espèces menacées, parce qu'elle s'auto-menace. Et donc, c'est de voir quelles sont toutes ces pressions qui s'exercent sur l'aire protégée. Et donc, parmi les pressions, eh ben, on peut avoir beaucoup de choses. On peut avoir le braconnage, on peut avoir les feux de brousse, on peut avoir la pression de la population, on peut avoir les pesticides qui sont utilisés en agriculture et qui vont passer dans l'eau et aller contaminer tous les points d'eau. On a le changement climatique. Hein, si vous avez un changement climatique, eh ben, des espèces qui étaient adaptées à des zones humides, eh ben, si la zone humide s'assèche, elles ne sont plus adaptées. Par exemple, le Sitatunga, c'est un antilope aquatique, il est peu braconné, mais si le marais s'assèche, ou bien si quelqu'un fait un barrage en amont et assèche le marais, ben le Sitatunga meurt. Hein. Donc c'est toute cette analyse, et on essaie donc de gérer en fonction de tous les problèmes qui vont empêcher les animaux de rester des populations viables.
Alors la difficulté, vous le disiez, c'est aussi la démographie. Hein. C'est vrai que quand on n'a pas d'autre choix pour se nourrir que de chasser, soit pour manger la viande, soit pour la vendre à la ville la plus proche pour faire vivre sa famille, et bien les discours sur la préservation de la nature n'ont pas beaucoup d'importance. Damien Martin l'a bien compris, lui, c'est un Français. Il a découvert en 2005 la vallée de la Sitatunga, justement, au Bénin, à une heure de route de Cotonou. Il s'y est installé. Il a créé le CREDI, le Centre Régional de Recherche et d'Éducation pour un Développement Intégré. C'est une ONG qui travaille donc pour la préservation de l'environnement. Et parmi leurs nombreuses activités, l'ONG travaille main dans la main avec les habitants du coin pour les encourager à chasser de manière plus durable et notamment pour protéger donc le Sitatunga, cette petite antilope qui est devenue l'emblème du territoire. Alice Milot s'est rendue sur place. Elle a été accueillie par Laurence et Georges qui travaillent tous les deux pour cette association.
Ici, nous sommes dans un village qu'on appelle Fortomé. Potomé, c'est le nom du village en langue locale. Et donc, en français, ça veut dire village de la panthère. Parce que dans ce lieu, autrefois, il y avait de la panthère. C'est vrai que le village a gardé ce nom, mais nous ne pouvons plus trouver cet animal dans le village parce que finalement, l'animal a été abattu. Et donc, il n'en existe plus. L'espèce est éteinte ici. Donc, il n'y en a plus, il n'y a plus de panthères ici, mais il y a quand même le village de la panthère.
On vient de pénétrer sur un petit sentier, c'est ça?
Oui, c'est un sentier qui mène à la forêt de la panthère.
On vient à peine de quitter la route et déjà la végétation est très dense. Et d'ailleurs, on est accompagné avec un monsieur qui a pris avec lui une machette.
Effectivement. C'est le chargé du suivi de la biodiversité. C'est lui qui va nous donner plus de détails sur cette forêt de la panthère.
Vous allez bien vouloir vous courber, aller marcher sous les arbres.
Ah oui, là, il faut vraiment presque se mettre à quatre pattes pour circuler à travers les lianes.
Alors, ce qui est extraordinaire dans une forêt comme ça, elle fait 1,4 hectare, c'est tout petit, et pourtant, on pourrait presque s'y perdre. C'est un mur de végétation, puis on a du mal à avoir des repères pour s'orienter. Et on n'a même pas le ciel pour nous aider. Je suis Damien Martin, je suis donc le directeur technique de CREDI ONG. Vous sentez à un moment donné des odeurs aussi assez fortes. C'est des odeurs de gibier justement qui sont passées par là peut-être avant nous.
Bon, si on a la chance, on peut voir un céphalophe de Walter. C'est une antilope de taille moyenne. Il y a le Sitatunga qui est une antilope qui est inféodée à l'eau. Elle utilise beaucoup plus le marécage. Après ça, nous avons des singes. Il y a le mona, il y a les vervets.
On dit aujourd'hui que 1%, les îlots forestiers comme dans lesquels nous sommes aujourd'hui, ils représentent 1% du territoire national, mais ils abritent près de 70% de la biodiversité du Bénin. Donc c'est énorme leur rôle dans l'habitat ou le refuge de la biodiversité au Bénin.
On continue à se frayer un chemin ?
Vraiment.
Allez, je vous suis.
Donc les animaux qui sont finalement la proie des chasseurs en particulier, puisque la chasse c'est à peu près aujourd'hui 300 ou 400 chasseurs, Ils sont avant tout agriculteurs, zemi-diaman, donc taximoto. Mais ils sont chasseurs à la nuit.
C'est une activité complémentaire pour eux.
C'est une activité complémentaire, exactement, et qui contribue de moins en moins à leurs revenus. Autrefois, ça a été une chasse lucrative, hein, parce qu'on retrouvait quand même un certain nombre de gros gibiers, comme le citatouna en particulier, donc qui permettait de ramener peut-être 300 000 francs par nuit de chasse. La quantité de gibier entre il y a une vingtaine d'années et aujourd'hui, elle a sérieusement décliné. Et donc la réglementation nationale de la chasse interdit la capture ou l'abattage d'un certain nombre d'animaux. Malheureusement, la plupart en fait des chasseurs ne connaissent pas cette réglementation en vigueur pour la chasse. Et donc, aux yeux de la loi, ils sont des braconniers. Eh bien, comme on le dit, nul n'est censé ignorer la loi. Non. Ils la prennent à leurs dépens. Mais voilà, ce sont des foyers. Ces chasseurs ont souvent des foyers qui sont assez vulnérables, relativement pauvres. Et donc, c'est pas forcément uniquement la répression qui peut amener à un changement de comportement. Et donc, on travaille, nous, sur d'abord leur présenter les textes, leur dire ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et on va demander à l'administration forestière de patienter pour que ces populations de chasseurs aillent vers un respect de la réglementation en vigueur.
Nous leur disons toujours, ce n'est pas que nous refusons la chasse, encore que nous ne sommes pas les forestiers, mais il suffit de leur expliquer que la chasse doit être raisonnable et responsable. Nous sommes appuyés sur le plan de chasse national, parce que déjà dans ce plan de chasse, on a identifié les périodes de chasse, les périodes de reproduction, les animaux à abattre, ainsi de suite. Donc, la chasse à l'abattu, ça tue les animaux petits, grands, femelles en gestation et consorts.
Vous leur demandez de ne pas chasser les petits et de ne pas chasser les femelles parce que c'est ça qui permet finalement à la population de se régénérer.
Parce que plus on chasse les petits, on n'aura plus des adultes. Plus on chasse les femelles qui sont en gestation, on n'aura plus de petits. Donc la population va diminuer progressivement et à la longue, on n'aura même plus d'animaux.
Vous avez choisi le volet vraiment de la prévention. C'est-à-dire que vous, votre travail, c'est discuter, parlementer, convaincre.
Exactement. On a trois animateurs actuellement qui ont justement dans leur mission d'aller régulièrement assister aux réunions des associations villageoises de chasse. On est vraiment dans une relation de proximité.
Je m'appelle Dossou Joseph, je suis le chargé de la promotion de la culture, de l'artisanat et du tourisme dans la vallée du Sitatunga. Et je travaille pour la dite ONG Crédit.
Comment les chasseurs ont réagi au départ?
Qu'est-ce qu'on va manger?
C'est ça qu'ils vous ont répondu?
Oui. Pour pouvoir arracher quelque chose à quelqu'un, il faut lui proposer autre chose. Donc c'est ce qui a amené Crédit à réfléchir à quoi faire pour vraiment remplacer ce qu'on est en train de retirer là-bas. C'est ça qui a amené l'initiative de microcrédit animal. Notre pari, c'est de remplacer la chasse par l'élevage, ou du moins de remplacer la chasse par autre chose. Le microcrédit animal consiste à donner au chasseur des animaux. C'est le chasseur qui doit dire, j'ai besoin de temps. Si c'est des porcs, on lui donne 3 femelles, 1 mâle. Alors quand il va faire un élevage familial, on peut l'appeler élevage familial, donc dès qu'il aura besoin d'argent, il peut attraper juste un petit mouton, un petit cochon ou bien un petit coq, vendre et avoir en fait un petit sou pour répondre à un besoin donné. Ici, on est sur la ferme. Sur cette ferme, il y a des chasseurs qui viennent se faire former pour monter de mini-projets d'élevage.
Les chasseurs viennent vraiment ici en stage pour apprendre à élever les animaux.
Oui, là-bas nous avons les lapins, à ma droite ici vous avez les volailles, et au fond là-bas nous avons les porcs et les moutons. Donc ici nous avons des poulets qu'on est en train d'élever, et le but c'est de pouvoir nous-mêmes faire des expériences. Et maintenant, après ces expériences, on peut savoir maintenant quoi donner aux chasseurs comme formation. Dans l'élevage, les gens ont une première vue, c'est de se tourner vers les produits végétaux, ce qui leur coûte cher. Et à la longue, ils n'ont pas un résultat aussi reluisant. Donc ici, nous, on essaye de faire avec les moyens de bord.
Naturels.
Comme par exemple, pour renforcer le taux de protéines dans l'organisme des poulets, nous, on essaye de former des termitières à base de la paille et puis des bouses de vache. Et comme ça, ça remplace. Le chasseur ne va pas trop dépenser dans l'achat des produits pour pouvoir augmenter le taux de protéines dans l'organisme de ces coquelets-là.
En fait, l'objectif ici, c'est de montrer aux chasseurs que cet élevage-là que vous faites ici, il marche. Et il pourrait leur apporter de l'argent.
Il pourrait leur apporter de l'argent, justement. C'est ce qu'on est en train de faire.
C'est pas du vent sur RFI.
Et ici, nous sommes à Halaja. Nous avons quitté Kwatome. Et nous avons emprunté une piste rurale qui nous amène dans le village qui est situé à 5 km de Kwatome. Donc nous allons visiter rapidement un chasseur qui s'est reconverti. Donc c'est un chasseur qui chasse spécifiquement les crocodiles dans le temps. Donc c'est comme ça on l'a connu et par la suite on a décidé de lui offrir quelques animaux, principalement des cochons, pour compenser un peu la perte au niveau de son économie personnelle. On lui a donné ces animaux. Le voilà qui arrive.
Bonjour monsieur.
Oh, mi kabo me chelami. Mi kabo lo dami de gonumi. Mi lo gandia nyeno ju kana tunde.
Bonjour, bonne arrivée. Je m'appelle Ju kana tunde.
C'est votre maison ici?
Eh ko che gbe fi bon kono ikan pere pere. Bon na ngwe na pla mi so ikan ko che kon. Bon mi na kon.
Oui, c'est ma maison qui est ici et je fais un peu d'élevage. Donc je peux vous amener, vous allez visiter.
Votre porcherie, elle est divisée en deux blocs de ciment. Et on voit là, dans celui-là, il y a deux petits cochons roses. Et à côté, il y a trois petits cochons noirs. C'est l'ONG qui vous a donné les cochons?
Oui, c'est l'ONG, un ami, Canyon.
Oui, c'est l'ONG qui m'a donné les cochons.
Oui, on a donné. Mais au moins, il y a un peu de temps. Puis il y a un peu de temps.
Au fait, je suis un chasseur, je fais la chasse, mais avec l'ONG, ils m'ont appelé, ils m'ont interdit que pour les activités de chasse, qu'il n'y a plus beaucoup d'animaux dans la forêt et autres. Donc avec l'élevage, je peux développer des activités pour pouvoir subvenir à mes besoins et avec ça, je m'en sors un peu. Avant, je faisais ça, mais ce n'est pas de cette manière que je fais ça. Moi, je fais ça de façon anarchique. Non, c'est l'ONG qui m'a appris la manière dont il faut les entretenir pour qu'ils soient en bon état et autres. Ils m'ont offert un vétérinaire qui vient faire les soins pour me dire ce que je peux faire, ce que je ne dois pas faire. Peut-être si je sens quelque chose, comment je vais l'appeler ou bien ce que je vais utiliser pour que les animaux soient en bon état. En fait, si les animaux enfantent et puis j'ai assez d'animaux, je peux vendre et trouver assez d'argent. Mais ce n'est pas dans l'immédiat, c'est à long terme.
Aujourd'hui, parce que vous avez les cochons, vous chassez moins, alors?
Un jodobi.
Oui, au fait, j'ai laissé ça complètement, je ne chasse plus.
Est-ce que vous pensez qu'à long terme, ces cochons vont vous rapporter autant que la chasse?
Au fait, si je prends bien soin de ça, ça va me rapporter plus que la chasse.
Entre le moment où vous demandez aux chasseurs d'arrêter leurs activités de chasse anarchiques et que vous leur donnez des animaux d'élevage, mais il va falloir du temps pour que ces animaux et que leur ferme devienne rentable. Oui. Comment est-ce que vous faites pour les convaincre d'être patients?
Bon, il faut dire que je vous ai parlé tout à l'heure de microcrédit animal. Après, j'ai parlé aussi de microcrédit financier à taux zéro en attendant que l'élevage ne prenne. On leur retire le pain de la bouche et de l'autre côté, avec le temps, on leur donne du biscuit. Donc c'est une initiative qui peut être multipliée, mais qui n'est pas quand même facile à faire.
Ça demande du temps.
Ça ne peut jamais être fait d'une minute à l'autre. Donc les chasseurs aussi, le but c'est qu'ils essayent de penser aussi aux générations futures.
Un programme financé par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Bertrand Chardonnet, je rappelle que vous êtes consultant indépendant depuis 30 ans hein, sur la gestion des aires protégées en Afrique. Comment est-ce que vous réagissez à cette initiative, à ce reportage ?
Bon, d'abord, je crois que c'est toujours bien de structurer des communautés locales sur des thèmes de conservation et d'environnement. Ça contribue au changement de mentalité qui est absolument indispensable. Vous savez, avant, les gens, ils pensaient que la nature était infinie, qu'on pouvait l'utiliser et que ça se renouvellerait toujours. Maintenant, c'est pas le cas. Donc, quand on arrive sur des gestions, dire qu'est-ce qui est renouvelable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on peut gérer, on est en train d'amenuiser le capital, il faut préserver le capital, de toute façon, c'est bon. Le deuxième point, c'est que les solutions qui ont été trouvées sont d'abord des solutions de développement. Alors le développement, bon, ça on en a clairement besoin, on va pas dire le contraire. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est lorsqu'on se trouve en périphérie d'une aire protégée. Si on fait trop de développement, on risque de pas faire assez de conservation. C'est difficile de concilier les deux hein, et d'avoir des retombées qui sont significatives pour...
Oui, mais en même temps, on est obligé quand même peut-être de... Comment on fait pour concilier les deux ? Enfin, c'est toute la difficulté.
Toute la difficulté est de concilier les deux et d'arriver en sachant que il faut quand même avoir un revenu suffisant pour arriver à changer les mentalités, changer les comportements. Si on donne quelques centimes, ça changera pas les
quelques cochons. Ça changera pas les choses. Vous pensez que ça ne va pas changer la donne ?
Bon, ça sera difficile parce que le gros du braconnage, en particulier, le chasseur qui va être sensibilisé, vous savez, normalement, on vole pas son voisin. Le voleur, il vient de beaucoup plus loin et il va venir. Donc là, on n'aura pas d'action sur ces gens-là. C'est un peu plus compliqué. Normalement, ce qu'on souhaite, lorsqu'on parle vraiment de conservation, mais là, sans du tout, encore une fois, aller contre le développement, quand on souhaiterait que les actions mises en place soient directement dépendantes de la conservation. Donc en début de reportage, on a entendu le guide de la Penjari, qui a fait une analyse très très juste de la situation et des problèmes de braconnage. Pourquoi ? Eh bien parce que lui, s'il a plus d'éléphants, eh bien il perd son travail. Hein. Donc là, on voit clairement un revenu qui est lié à un résultat de conservation. C'est ça qu'on aimerait développer. Maintenant, on sait que c'est pas possible parce que il y a quelques années, une trentaine d'années, on est parti très fort sur l'économie de la conservation et on disait toujours pour que la faune reste, il faut qu'elle paye pour sa survie. Hein, il faut qu'elle rapporte suffisamment pour sa survie. Maintenant, on a changé et c'est plutôt l'inverse. C'est si la faune reste, ça va payer. Et ça va payer comment ? Pas par un mécanisme économique, mais par un mécanisme financier. Donc d'autres systèmes. On a les services écosystémiques, on a l'écotourisme, on a des fonds fiduciaires, on a maintenant quelque chose qui est extrêmement performant, qui sont les paiements directs pour la conservation. Vous avez quelqu'un, par exemple, qui est, je prends un cas extrême, mais qui a été vu en Amérique latine, qui est amoureux des papillons, il meurt, il est très riche, il fait une fondation, il place cet argent, et ces papillons qu'il aime existent que dans une toute petite forêt, hein, sa taille des forêts qu'on voit dans ce reportage du Bénin, un hectare et quelques, et il dit, voilà, vous cultivez très mal avec des pesticides autour, ça tue les papillons que j'aime beaucoup, donc moi je vais mourir, mais avant de mourir, voilà ce qu'on va faire, je vais vous donner $1 million chaque année, si, quand les gens de ma fondation viennent, ils trouvent au moins 2000 papillons chaque année. Bon, ben les gens ont arrêté les pesticides.
Ouais, encore faut-il trouver quelqu'un qui donne $1 million chaque année.
Bon, mais il y a quand même de l'argent, il y a quand même des fondations américaines, il y en a pas mal. Donc ces nouveaux mécanismes, il faut les connaître, il faut les mettre en œuvre. Et donc ça nécessite deux choses, une formation d'un côté et de l'autre côté des gens comme opérateur de terrain, et donc cette structuration qui est faite par ces ONG sur le terrain, cette société civile, c'est exactement ça.
Alors le besoin de formation, vous en parliez à l'instant, et nous sommes justement en ligne avec quelqu'un que vous connaissez bien, Bertrand Chardonnet. Bonjour Geoffroy Mauvais.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes à Pretoria, vous êtes le responsable pour l'UICN du programme des aires protégées en Afrique et vous êtes en train de créer un MOOC. Un MOOC, c'est un Massive Online Open Course, c'est un cours sur Internet justement sur la gestion des aires protégées en Afrique. Alors de quoi s'agit-il ?
Ben, merci d'avoir rappelé ce que c'est qu'un MOOC. Donc c'est un cours ouvert à tous en ligne et gratuit. Donc c'est important parce que ça reste un acronyme MOOC, M-O-O-C, assez peu connu encore. C'est donc une occasion d'accéder à une formation hein, depuis chez soi. C'est une formation depuis chez soi ou son lieu de travail, peu importe, avec à la fois des cours dispensés sous forme de vidéo, puisqu'on parle de matériel en ligne, hein, mais aussi du matériel associé, des publications, des documents à consulter, etc. Mais la différence avec simplement du matériel qui serait mis en ligne, c'est que le cours est accompagné par des enseignants pendant toute la période du MOOC, hein, et il existe un forum pour échanger entre étudiants, et évidemment des quiz, des examens, si on souhaite acquérir une attestation de formation à la fin du MOOC.
Alors quel va être le contenu là de cette formation ?
Alors le contenu de ce MOOC, C'est une formation relativement généraliste hein, sur la gestion et la gouvernance des aires protégées, qui sera normalement complétée ultérieurement par des modules plus ciblés. Pour le moment, l'objectif, c'est de donner les bases nécessaires à la bonne gouvernance et, si possible, à la gestion efficace de ces territoires. Alors, on va couvrir des sujets comme la planification, le suivi des résultats, le financement durable, le tourisme, la surveillance, en fait, toutes choses dont vous venez de parler avec Bertrand. Et chaque semaine, disons qu'il faut compter un temps de travail de 4 ou 5 heures par module, avec une heure de vidéo et 3-4 heures de travail personnel.
Alors, qui peut s'inscrire et comment faire ?
Alors, c'est très très simple. Hein. Le mieux, pour faire le plus simple possible, c'est de passer via notre site internet qui s'appelle papaco.org, hein, papaco.org, où il y a un lien direct vers la plateforme Coursera qui héberge le MOOC. Donc, ça prend quelques clics, c'est totalement gratuit. Le début des cours est ensuite prévu le 26 octobre, c'est-à-dire que le premier module sera mis en ligne à cette date. Ensuite, pendant cette semaine, les modules seront mis en ligne et chacun peut suivre le MOOC à son rythme. Sachez qu'il y a déjà, je crois, plus de 400 inscrits hein, à ce jour, donc ça promet d'être un lieu de partage, d'expérience, enfin assez passionnant, extrêmement vivant. C'est pour nous une première expérience. Bon, j'espère que ça va bien marcher, que ça nous amènera à faire mieux et plus par la suite.
Merci Geoffroy Mauvais pour ces informations. Vous retrouverez évidemment toutes les coordonnées pour accéder à ce MOOC sur la page internet de l'émission www.rfi.fr. Merci Bertrand Chardonnet d'être passé dans C'est pas du vent.
Merci beaucoup.
Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Cette semaine, le président chinois Xi Jinping et Barack Obama se sont engagés dans une déclaration commune à interdire presque complètement les importations et les exportations d'ivoire, de limiter leur marché national et accentuer leur coopération pour enrayer le trafic d'espèces sauvages. Espérons que ces déclarations seront suivies d'effets. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.